8h36 sur France Culture, les invités culture de la matinale dans le cadre d'un été au Havre, au MUMA. Des artistes du 19e à nos jours racontent à travers leur œuvre, peinture, sculpture, vidéo, leur rapport à la mer, espace où naissent les mythes et subsistent des mystères. L'exposition s'appelle « Née de l'écume et des rêves » et elle restera en place jusqu'au 9 septembre. Nos invités, le commissaire d'exposition Denis-Michel Boël et l'artiste Nicolas Floch, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. Cette exposition qui questionne les imaginaires de la mer et des océans, d'une toile à l'autre. Combien vous avez recensé de nuances de bleu, Denis-Michel Boël?
Alors, nous avons dans ce parcours, qui couvre à peu près 150 ans de création artistique, sélectionné 180 œuvres. Des œuvres de toute nature, des tableaux, vous l'avez dit, mais aussi des dessins, des sculptures, des œuvres étranges et composites, fruits de l'art brut ou du bricolage surréaliste, et puis des vidéos pour les œuvres les plus contemporaines. Alors, le bleu est là sous toutes ses nuances, le bleu sombre, le bleu qui tire vers le vert, comme ce glace, qui est le terme qu'on utilise en langue bretonne pour parler justement du bleu des costumes d'ailleurs, comme du bleu de la mer.
De la mer bretonne, le glace, c'était d'ailleurs le titre de votre exposition au FRAC Bretagne à l'automne dernier, Nicolas Floch, et le glace reste votre couleur, votre bleu à vous?
Oui, disons que c'est le glace, c'est vraiment cette variation du bleu au vert, et qui est aussi le titre d'un livre publié par le FRAC Bretagne chez Roma Publication, qui vient de sortir.
Dont la couverture est bleue, c'est ce bleu-là.
Et dont la couverture est bleue, donc c'est comme ça va du bleu au vert, ça peut être bleu, ça pourrait être vert. C'est aussi cette question de la couleur de l'eau. Il y a une pièce dans l'exposition au MUMA. Qui est une peinture productive sonore et qui parle de la couleur de la mer, de cette couleur qui va principalement du bleu au vert, même s'il y a d'autres couleurs, et qui est liée évidemment à la composition du milieu marin et sa productivité. Et donc on a un chercheur qui nous parle, c'est une pièce sonore, qui nous parle de la... C'est de la peinture quasiment, c'est une parole scientifique, mais qui est une évocation picturale de la mer.
Et qui a réalisé cette pièce?
C'est moi, j'ai enregistré, ben c'est
voilà,
un échange avec Hubert Loisel.
Elle s'appelle La couleur de l'eau, cette peinture sonore, comme vous l'appelez. Et effectivement, on y entend la voix, la participation de l'océanographe Hubert Loisel. Il faut raconter assez rapidement, Denis-Michel Boël, l'importance qu'ont pris les scientifiques dans la relation qu'ils ont pu entretenir avec les artistes. Il y a déjà, pour commencer, eu des vases communicants entre la littérature et la peinture, avec notamment trois livres fondateurs, et vous le rappelez, dans les années 1860, La mer de Jules Michelet, Les travailleurs de la mer de Victor Hugo et Les chants de Mal d'Aurore de Lautréamont, sans oublier Jules Verne et son 20 000 lieues sous les mers, Le Nautilus, Nemo, l'Atlantide. Je vous propose juste d'écouter d'abord un extrait des Travailleurs de la mer de Victor Hugo, extrait lu par le comédien Jacques Bernier, c'était en 1953.
Il remarqua au-dessus du niveau de l'eau, à portée de sa main, une fissure horizontale dans le granit. Le crabe était probablement là. Il y plongea le poing le plus avant qu'il put et se mit à tâtonner dans ce trou de ténèbres. Tout à coup, il se sentit saisir le bras. Ce qu'il éprouva en ce moment, c'est l'horreur indescriptible. Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant venait de se tordre dans l'ombre autour de son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C'était la pression d'une courroie et la poussée d'une vrille. En moins d'une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le poignet et le coude et touché l'épaule. La pointe fouillait sous son aisselle. Gilliatt se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il était comme cloué. Brusquement, une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C'était le centre. Les cinq lanières s'y rattachaient comme des rayons à un moyeu. On distinguait au côté opposé de ce disque immonde le commencement de trois autres tentacules restés sous l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité, il y avait deux yeux qui regardaient. Ces yeux, vous voyez, Gilliatt reconnut la pieuvre.
Le pêcheur Gilliatt en lutte contre les éléments, en lutte contre l'océan qui doit affronter mille dangers et notamment cette pieuvre monstrueuse, des tempêtes, des orages. On peut peut-être revenir sur cette littérature qui a d'abord inspiré et nourri l'imaginaire des peintres, des artistes, Denis-Michel Boël. À l'origine, la mer, l'océan, c'est un univers plutôt trouble et opaque. Il y a une sorte d'angoisse qui se retrouve sur la toile, une peur de cet inconnu.
Alors, dans toute l'histoire de l'art occidental, les représentations de la mer, jusque, on va dire, au milieu du 19e siècle, à l'époque romantique, qu'il s'agisse de la mer, évidemment, calme comme de la mer en tempête, eh bien, c'est un monde effrayant, c'est un monde d'où vient le danger, c'est un monde, au Moyen-Âge, peuplé de monstres et d'animaux de toutes sortes. Dans l'Antiquité, déjà chez Homère, c'est un monde habité par des sirènes tentatrices qui viennent troubler les navigateurs. Donc c'est un monde qui fait peur et on sait que le changement de regard sur la mer à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, Alain Corbin l'a bien montré, traduit une nouvelle sensibilité de l'Occident à la mer, mais l'apprivoisement se fait tout doucement au cours du 19e siècle avec le développement des bains de mer. Alors, chez les artistes, évidemment, quelques-uns ont embarqué, quelques-uns ont navigué, mais la plupart des artistes ont peint la mer vue du rivage. Mmh. La mer qui devient de plus en plus frontale dans les années 1860, avec en particulier Courbet et ses vagues qui viennent s'écraser sur les galets d'Étretat. Et puis, évidemment, les premiers impressionnistes, Eugène Boudin et Monet vont donner tout un tas de variations de cette mer, mais vue du rivage. Là, ce qui nous a intéressé, c'était de nous concentrer sur les artistes, écrivains et peintres, qui ont pensé la mer comme un espace dans lequel on s'efforce de pénétrer, dans lequel on veut mener une exploration. Jules Verne, c'est une œuvre d'anticipation, mais quelques années avant, effectivement, le combat de Gilliatt dans Les Travailleurs de la mer, c'est déjà un affrontement physique, viscéral et vital avec ses forces obscures. Et ce sujet va hanter la peinture, en particulier à la fin du 19e siècle dans le mouvement symboliste, imprégné en particulier par les découvertes scientifiques de Darwin. Darwin et sa théorie de l'évolution qui assigne à la mer sans doute d'être le lieu matriciel de la vie sur Terre.
Et alors vous le racontez, au tournant du XXe siècle, c'est une discipline nouvelle qui va marquer un tournant et ouvrir de nouveaux horizons dans les représentations que les artistes se font de ce monde sous-marin, et c'est l'océanographie. On voit avec cette exposition que l'art n'est plus à l'abri du progrès, au contraire, qu'il s'en nourrit. À voir au Havre, en ce moment, on l'évoquait, votre peinture sonore, la couleur de l'eau, Nicolas Flock, comment vous avez travaillé avec des scientifiques? On peut peut-être donner l'exemple des récifs qui vous ont inspiré. Comment se passe cette collaboration aujourd'hui avec les scientifiques pour l'artiste que vous êtes?
Alors, elle est assez variée, ça dépend des projets, mais beaucoup, j'ai travaillé sur des habitats artificiels, des architectures sous-marines, en fait, qui sont développées plus par des ingénieurs, mais en lien, évidemment, avec des scientifiques. Donc là, c'est plus un travail documentaire et un travail de recherche. Je peux parler aussi de l'expérience avec Tara Expédition, où là, j'ai passé, presque un mois et demi avec des scientifiques à bord.
Non. Tara, c'était une goélette. Hein.
C'est une goélette, voilà, qui parcourt les océans, et c'est un bateau de recherche, donc qui accueille des scientifiques et des artistes. Et donc, À bord de Tara, oui, j'ai pu travailler avec les scientifiques sur autour de problématiques comme le réchauffement climatique et l'acidification des océans. Et je plonge aussi avec ces scientifiques puisque je suis plongeur professionnel et donc je les accompagne et je travaille principalement en photographie sous-marine sur les paysages sous-marins, sur les habitats en fait, la représentation des habitats, mais dans la mer, l'ensemble des habitats évidemment forme le paysage.
Et alors vous dites d'une certaine manière, vous documentez aussi le réel, ce réel sous-marin, mais le regard de l'artiste, vous allez le poser dans la composition de cette photo, par exemple, qu'on peut retrouver dans l'exposition Kuroshio, ces corails mous que l'on peut voir sur cette photographie.
Ça n'est pas juste une question de composition, c'est-à-dire que déjà je montre un paysage et on ne montre pas de paysage en photographie ou très peu de paysages sous l'eau. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on montre le poisson, on montre le plongeur, parce que le plongeur va donner l'échelle, mais on n'a pas cette approche du paysage. Donc déjà, je montre les paysages sous l'eau, mais ce paysage nous raconte quelque chose dans le titre, dans la légende. Il y a la température, le lieu, mais le pH. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? On voit des coraux mous, en fait, mais on est dans une zone acide et il n'y a pas de bioconstructeur puisqu'il n'y a que les coraux mous qui se développent. Et donc la légende, ce pH, ce milieu acide nous donne des indications sur ce que l'on voit dans l'image. Et ensuite, juste pour revenir sur ce rapport à l'art, par exemple, quand on parle d'immersion, on parlait tout à l'heure de couleur, et rentrer dans l'océan, c'est rentrer dans la couleur, c'est rentrer dans la monochromie quand on descend dans une zone profonde, on est complètement baigné dans la couleur et on est dans un monochrome à 360 degrés.
Qu'est-ce qui se passe quand on confronte ces périodes, quand on confronte le travail des artistes d'aujourd'hui à ceux d'hier, du 19e, que vous présentez aussi dans cette exposition dont vous êtes l'un des co-commissaires, Denis-Michel Boël. Qu'est-ce que vous voyez entre cet imaginaire d'avant, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait sous la mer pour les artistes du 19e, et aujourd'hui, cette capacité qu'on a à connaître ce réel sous-marin et la projection sensible que l'artiste va pouvoir en faire. Est-ce qu'il y a une grande différence ?
Écoutez, depuis effectivement le milieu du 19e siècle, les années 1860, les artistes ont tenté d'approcher ce monde sous-marin alors qu'ils n'étaient pas du tout en capacité de l'explorer physiquement. Mmh. Et évidemment, ce qui est frappant, c'est que dans un premier temps, ils ont traduit de façon qu'on dirait scientifiquement erronée, par exemple, la couleur des fonds sous-marins. Émile Gallet, dans les années 1880, produit un petit vase qui est dans l'exposition, magnifique, intitulé « Le fond de la mer ». Et en fait, ce vase est d'un rouge grenat, parce que à ce moment-là, on pense que c'est la couleur qui va dominer lorsque l'on descend sous l'eau. En 1862, un peintre américain produit le premier paysage peint, la première représentation d'un paysage sous-marin. Il s'appelle Edward Moran. Il produit un étrange tableau, vraiment qui n'a aucun équivalent, qui peuple une sorte de plaine ou de vallée plutôt, le titre c'est « La vallée sous la mer », d'anémones, d'étoiles de mer, d'êtres qui vivent là. Et puis, des falaises s'élèvent et on a un ciel, mais qui n'est pas un ciel, qui est l'interprétation qui peut se faire de
la surface de l'eau. Hein.
Voilà, de la surface de l'eau vue d'en dessous, ce que les plongeurs aujourd'hui, évidemment, ce dont ils ont l'expérience. Et c'est assez troublant, cette tentative de représenter quelque chose qu'évidemment personne n'a été voir.
Oui, il reconstitue presque la Terre, un paysage terrien sous la surface de l'eau. Hein.
Absolument, c'est d'ailleurs un peu un paysage du Grand Ouest américain, hein, une de ces grandes vallées sauvage.
Nicolas Flock.
Mais en même temps,
ça ressemble un peu à ça.
C'est un paysage qui peut être assez réaliste, même si les couleurs, évidemment, le rouge disparaît. Mais et ce qui est étonnant, c'est que ces vues, ce dont je parlais tout à l'heure, ces vues paysagères existent peu. On voit peu de ces vues paysagères, alors que quand on plonge, on les voit. Donc c'est quand même une chose assez étonnante. Pour revenir sur les collaborations aussi avec les scientifiques de tout à l'heure, il y a aussi une chose qui me paraît importante, c'est le rapport d'échelle. C'est-à-dire que travailler avec des scientifiques, ça permet de travailler à des échelles multiples et d'aller vers, évidemment, les scientifiques avec leurs outils ont accès à des dimensions qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou qu'on peut si on travaille sur le plancton par exemple Tara a beaucoup travaillé sur le plancton on peut aller découvrir des choses qui sont à des échelles dans les filaments petits. On peut travailler aussi avec les satellites sur la couleur de l'eau à très grandes échelles. Donc, les collaborations avec les scientifiques permettent de travailler à des échelles multiples.
Mais on y perd en chimère, Nicolas Flock. On y perd en vision fantasmée de ce qu'était cet univers, ce paradis perdu tel que les artistes en rendaient compte à travers le seul prisme de leur imagination. Toutes ces créatures marines qui surgissent là à travers vers l'étoile de ces artistes. Est-ce que, du coup, le progrès, la science, n'est pas en train de tuer l'art aussi ?
Je ne pense pas, puisque cela permet... C'est aborder toute cette dimension invisible. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où on se rend de plus en plus compte que l'invisible est très, très, très présent dans notre vie et l'affecte de plein de manières. Et c'est aussi pouvoir aller sur ce territoire-là et mieux le comprendre pour le représenter et mieux l'imaginer. Donc, c'est avoir accès à des espaces. L'imaginaire reste toujours là, évidemment.
Denis Michel Bruel.
Il y a toute une tradition, en fait, du dessin scientifique. Dès la fin du XVIIIe siècle, les voyageurs, les grands voyages d'exploration emportent avec eux des dessinateurs. Et ces dessins scientifiques, qui sont méticuleux, qui procèdent de la description la plus fine possible. On a des gouaches sur vélin de Le Sueur dans l'exposition, et puis on va dire, pour aller plus tard, tout à l'extrême fin du 19e siècle, des dessins d'Ernest Haeckel, un Allemand qui a décrit et qui s'est passionné pour justement les formes géométriques dans les animaux marins. Et là, évidemment, on est dans le réel, dans la description, mais non, on perd tout contact avec le référent. On est dans des formes, des couleurs, une dimension purement plastique. Et tout au long du 19e siècle, mais surtout au début du 20e siècle, des artistes vont accompagner des scientifiques. C'est le cas, par exemple, dans les nombreuses stations de biologie marine qui essaiment sur le littoral dans les années 1880-90. C'est dans ces stations, par exemple, qu'on va expérimenter la photographie sous-marine. Et ça va, dans un premier temps, produire des choses évidemment étranges. Mais c'est aussi à l'aquarium de Roscoff que, juste à la veille de la Première Guerre mondiale, Mathurin Méheux va produire des centaines et même des milliers de dessins, de figurations des animaux sous-marins relevés dans les aquariums ou les pieds dans l'eau, dans la mer. Mais pour aboutir, chez lui aussi, à un monde qui dérive de temps en temps vers le fantastique. Il y a dans l'exposition une sirène et des êtres sous-marins qu'il a inventés.
Fantastique et poétique aussi en musique avec quelques notes de la mer, Jeu de vagues, trois esquisses symphoniques de Claude Debussy, dirigé par Pierre Boulez. La mère de Claude Debussy, Pierre Boulez, à la direction du New Philharmonia Orchestra, c'était en 87. Comment la création contemporaine s'est emparée de cet univers marin et des enjeux liés à sa préservation? Vous l'évoquiez, c'est aussi le sens que vous donnez à votre travail, à votre création, Nicolas Floch. 4 tirages de vous, grand format, de vos photographies de fonds sous-marins sont à voir dans cette exposition au MUMA du Havre, des fonds sous-marins d'Ouessant et de Kuroshio au Japon. On entend bien que vous créez en conscience et on a le sentiment que vous êtes toute une génération d'artistes aujourd'hui à poser un regard aiguisé, engagé sur ce qui se passe sous la surface de la mer.
Oui, parce que je crois que c'est un espace qu'on connaît très mal, qui est sous-représenté puisqu'il est inaccessible et on parlait tout à l'heure d'invisibilité. Et c'est important, je pense, de travailler sur la représentation du monde marin et sur son importance aussi, puisque l'océan, nous dépendons de l'océan. Nous vivons, nous respirons grâce à l'océan. 65% de l'oxygène vient de l'océan. Chacun de nos souffles est alimenté par la couleur de l'eau, par le plancton qui donne cette couleur, ce vert du glace est lié au plancton, à la composition du milieu marin qui va nous permettre de respirer. Donc on a un échange constant avec l'océan je travaille, je pense, sur le monde et sa transformation, comme pas mal d'artistes de ma génération.
Alors, autre artiste présente dans cette exposition, Elsa Guillaume, qui a elle aussi participé à l'expédition Tara, ouais. Dont vous pouvez peut-être nous parler avec votre regard. Comment est-ce qu'elle réinterprète cet univers?
Alors Elsa travaille vraiment sur cette dimension imaginaire dont on parlait tout à l'heure et elle a fait une fresque magnifique au MUMA elle travaille aussi beaucoup en céramique mais sur l'imaginaire, je dirais vraiment sur la dimension imaginaire liée au monde marin. Moi je suis plus dans la dimension réelle et Elsa travaille plus sur l'imaginaire, je crois, Denis Michel.
Oui, mais c'est aussi quelqu'un évidemment qui a l'expérience de la plongée, de l'exploration du monde sous-marin et qui nourrit pour une part ses représentations parfois fantasmagoriques. Du monde animal, végétal et de l'eau.
Et à propos de représentation, on peut peut-être juste évoquer aussi, ou de fantasmagorie, le Capitaine Nemo de Pierre et Gilles qui a été achevé en 2004 et qu'on retrouve dans cette exposition. C'est une reproduction assez étonnante, grand format, du Capitaine Nemo avec le visage de François Pinault en Capitaine Nemo peinte, marouflée sur aluminium et qu'on peut retrouver et voir dans cette exposition. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas Floch, merci Denis-Michel Boël. L'exposition est à voir, Née de l'écume et des rêves, au MUMA du Havre jusqu'au 9 septembre, c'est-à-dire tout l'été. Un grand merci à toute l'équipe des Matins, Pauline Chanu et Jean-Christophe Brianchon à la programmation, Benjamin Hu à la réalisation avec Emmanuel Morse d'Incan et à toute l'équipe, Marine Beccarelli, Cédric Fuentes, Aurélia Clément et Cosima Mézidi.